Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Nicolas Sarkozy jugé pour corruption et trafic d'influence. Le 8 décembre, le parquet a demandé contre lui et les deux autres prévenus 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Code Source vous raconte en 2 épisodes cette affaire, dite des écoutes, autrement surnommée l'affaire Paul Bismuth. Surtout, écoutez bien le premier épisode, publié précédemment sur le rappel des faits. Pour bien comprendre ce deuxième et dernier épisode sur le sujet, on est toujours avec Timothée Boutry, journaliste au service police-justice du Parisien. Il nous raconte maintenant le procès de l'ancien président.
Je ne suis pas optimiste. Je suis simplement combatif. Je n'ai pas l'intention qu'on me reproche des choses que je n'ai pas commises. Et les Français doivent le savoir, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. J'ai beaucoup de défauts et sans doute ai-je fait beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un pourri.
Le lundi 23 novembre, dans le nouveau palais de justice de Paris, dans le 17e arrondissement, il est un peu plus de 13h. Nicolas Sarkozy patiente avant le début de son procès. Que vous couvrez pour le Parisien, Timothée Boutry?
Oui, il est arrivé vers 13h20 pour une audience qui est censée débuter à 13h30. Il est accompagné de ses avocats, Jacqueline Lafont et François Artufel. Il y a pas mal de monde, évidemment, beaucoup de presse, des proches. Il y a Thierry Herzog, évidemment, son coprévenu, son ami, son frère, donc ils discutent entre eux. Il est comme à son habitude, excité, quoi. Il trépigne, il a les jambes qui s'agitent. On sent qu'il a envie de s'expliquer.
Un ancien président de la République jugé par un tribunal correctionnel, c'est rare?
C'est extrêmement rare, c'est une première, à la fois pas une première. En fait, il y avait déjà eu un précédent, c'est Jacques Chirac, qui a été jugé dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, et d'ailleurs il était condamné. Mais Jacques Chirac n'était pas présent à son procès, pour des raisons de santé, donc il a été jugé et condamné en son absence. Là, c'est la première fois qu'un ancien président de la République sera jugé en sa présence devant un tribunal correctionnel.
Nicolas Sarkozy est jugé pour corruption et trafic d'influence. Quelle peine il encourt dans cette affaire?
Il encourt une peine de 10 ans de prison et €1 million d'amende.
Deux autres personnes doivent répondre des mêmes chefs de mise en examen. Son ami et avocat Thierry Herzog, qui a comme lui 65 ans, et le magistrat Gilbert Azibert, âgé de 73 ans, qui n'est pas là le premier jour à l'audience parce qu'il est malade. Le procès s'ouvre, Timothée Boutry, au tout début de cette première audience, l'identité de l'ancien président est déclinée.
Oui, c'est un petit échange marrant, puisque la présidente dit donc Nicolas Sarkozy de Najib Okcha, qui est le nom complet de l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy dit, Sarkozy, ça suffit. Hein. Et la présidente dit, oui, non, mais pour le casier judiciaire, on a besoin de l'identité complète. Et il dit, jusqu'à présent, j'ai pas eu besoin de m'en servir.
À peine ouvert, le procès de Nicolas Sarkozy est provisoirement suspendu.
Les avocats de Gilbert Azibert demandent un report du procès pour raison de santé. Après une expertise médicale, cette demande sera rejetée le jeudi. Et c'est finalement le lundi 30 novembre que le procès débute réellement. Ce jour-là, Timothée Boutry, l'avocate de Nicolas Sarkozy, Jacqueline Lafont, dénonce la façon dont l'enquête a été menée.
Oui, en fait, les débats proprement parlés vont pas commencer à ce moment-là, puisque la défense va prendre la journée pour contester la manière dont l'enquête a été menée, à la fois les écoutes téléphoniques et leur retranscription, en indiquant ce sont des écoutes entre un avocat et son client, c'est sacré, vous ne pouviez pas les retranscrire, et aussi en pilonnant cette enquête préliminaire cachée, dont ils n'ont eu que tardivement la communication, en indiquant que voilà, il n'y a pas eu d'égalité des armes et qu'on ne peut pas juger dans ces conditions-là, qu'on leur a menti, et donc que cette procédure est totalement viciée.
Et elle demande carrément la nullité de l'ensemble de la procédure.
Oui, ça s'appelle des conclusions de nullité. En fait, ça veut dire, voilà, je vous demande de considérer que ça ne pouvait pas figurer dans le dossier, et donc, en gros, de torpiller l'enquête, et donc le cœur même du procès. La décision est, comme on dit, jointe au fond, c'est-à-dire que le tribunal rendra sa décision au moment de son délibéré, mais le procès a quand même lieu.
Nicolas Sarkozy prend la parole au début du procès ?
Oui, une très brève déclaration, puisqu'on lui résume les faits pour lesquels il est poursuivi, et il dit, voilà, je sais que c'est formel cette présentation, mais sachez que je conteste tous les faits qui me sont reprochés, et il parle d'une infamie.
Le mardi 1er décembre, le magistrat de la Cour de cassation que Gilbert Azibert avait sollicité pour essayer d'avoir des informations, Patrick Sassou, vient témoigner. Que dit-il ?
En gros, il dit que il connaît bien Gilbert Azibert, ils ont travaillé ensemble à Bordeaux, ils se sont retrouvés à la Cour de cassation, ils sont assez proches, et que jamais il n'a délivré d'informations confidentielles à son collègue. Il dit, en gros, on a échangé, mais je lui ai pas donné de secret. Néanmoins, il dit quand même, c'est vrai que sur un moment, sur une période, j'ai trouvé que Gilbert Azibert était très insistant. Juste ça, il va dire, il m'a quand même posé beaucoup, beaucoup de questions à ce moment-là, c'était assez inhabituel.
Le magistrat en question, Gilbert Azibert, le troisième prévenu, est à la barre le lendemain et il commence par dénoncer les conditions de sa garde à vue pendant l'enquête en juillet 2014.
Ça, c'était assez sidérant parce que j'ai l'impression qu'il découvre que c'est qu'une garde à vue. Donc des gens qui viennent chez lui à 6h, le transport en voiture à Paris, et puis surtout il dit le matin j'ai pas pu prendre de douche parce qu'on m'a dit que c'était la veille, puis il dit j'ai compris pourquoi les gens qu'on nous présentait ils arrivaient mal rasés et froissés. C'est assez sidérant et c'est même très inquiétant de se rendre compte qu'un magistrat qui a eu une telle carrière puisse découvrir à quel point la garde à vue est une violence symbolique.
Qu'est-ce qu'il répond sur le fait qu'il s'est intéressé de très près à cette affaire des agendas présidentiels au sein de la Cour de cassation ?
En fait, il va dire que c'est un passionné de procédure pénale, ce qui est vrai, ce que tout le monde dit, et qu'en gros, c'est le point de droit qui le passionnait, la saisie de ses agendas, est-ce que c'est du ressort du mandat présidentiel ou non, est-ce qu'on est recevable ou non. Et donc lui, toute son idée, c'est de dire, moi, ça me passionne, Thierry Herzog, c'est mon ami, ça le passionne, on parle de procédure pénale, et en gros, c'est juste un intérêt intellectuel, et pas du tout un intérêt matériel en échange d'une quelconque rétribution. Non, c'est purement un intérêt juridique.
Justement, que dit-il sur le poste à Monaco qu'il aurait convoité ?
Il dit qu'il ne le convoitait plus et que si à un moment donné il avait eu éventuellement l'idée d'aller finir sa carrière là-bas, il dit qu'il a eu un gros pépin de santé et qu'à partir de ce moment-là, il ne sollicitait plus ce fameux poste.
Le jeudi 3 décembre, l'un des prévenus, l'avocat Thierry Herzog, est à la barre pour se défendre. Comment est-ce qu'il explique le fait d'avoir acheté deux portables, les fameux portables de la ligne Bismuth ?
Il dit que le but est d'empêcher que ces conversations avec l'ancien président soient écoutées par des officines. Il dit j'ai pas confiance, il y a eu un poste à responsabilité, on n'est pas à l'abri des coups de barbouzarde, et donc c'est pour ça qu'on parle sur ces lignes dédiées. Et d'ailleurs, déjà en 2012, j'avais acheté une ligne téléphonique dédiée pour parler avec Nicolas Sarkozy, donc ça n'a rien à voir, dit-il, avec les écoutes dans l'affaire libyenne, et que même avant, on avait ce système entre lui et moi.
Est-ce qu'on lui demande s'il était au courant que la ligne officielle était sur écoute ?
Évidemment non, il va dire que pas du tout, qu'ils n'ont pas été informés. D'ailleurs, ils vont dire qu'il y a eu un non-lieu, même si pour les juges d'instruction, il y a un doute, puisque dans les conversations, ils parlent des juges qui écoutent ou ces messieurs qui nous écoutent. Mais eux disent non, pas du tout, c'est absolument pas ça dont il est question.
Pour lui, les enquêteurs n'avaient pas à écouter ces conversations téléphoniques avec Nicolas Sarkozy.
Disons que pour lui, il n'est pas question de répondre du contenu de cet échange devant un tribunal, parce qu'il considère que le tribunal ne devrait pas avoir en sa possession ces écoutes. La Cour de cassation a validé ces écoutes. Depuis, la défense dit « oui, mais il y a eu un arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que non, vous ne pouviez pas l'utiliser ». Et ça fait partie des arguments qui ont été avancés le premier jour par la défense pour justifier la nullité de l'enquête. Et on verra la décision que prendra le tribunal lors du rendu de son jugement.
Et il cite même à un moment le journaliste Edoui Plenel.
Oui, c'est cocasse parce qu'on sait que Mediapart est très offensif dans toutes les enquêtes qui visent Nicolas Sarkozy. Et en gros, là, il va citer Edoui Plenel et un de ses livres qui s'appelle « Les mots volés », dans lequel Edoui Plenel raconte la très désagréable aventure qu'il a subie, c'est celle d'avoir été écouté par François Mitterrand dans le scandale des écoutes sauvages de l'Élysée. Il a fait un livre là-dessus. Et il y a un passage dans lequel il dit quand on est au téléphone avec un intime, on peut mentir, on divague, c'est rien de sérieux, c'est pas probant, quoi. Voilà, on se lâche, on s'oublie. Et donc, Thierry Herzog dit moi, quand je parle avec Gilbert Azibert, rien ne dit que c'est la vérité. Et ce sont des mots en l'air qui n'ont aucune valeur. Mais voilà, c'est pour ça qu'il invoque Edoui Plenel.
Le lundi 7 décembre, à la demande du parquet national financier qui avait supervisé cette instruction, plusieurs enregistrements des écoutes doivent être diffusés à l'audience.
Oui, on se dit enfin, enfin, parce que ces fameuses écoutes, c'est le cœur du procès, c'est le cœur de l'affaire. D'ailleurs, on parle de l'affaire des écoutes. Et moi, sur les bancs de la défense, mais non, vous pouvez pas, on les a jamais attendus. Si on écoute des conversations qui n'ont pas été retranscrites, c'est très grave. Grosse, grosse confrontation. Donc là, le tribunal se retire pendant une heure, ce qui est assez long, et revient en disant, nous faisons droit à la demande du PNF, et donc, on va enfin entendre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog converser. Et évidemment, on a envie d'entendre le ton, en fait, de leur conversation, parce que par écrit, on peut pas se rendre compte. Est-ce qu'il y a de la connivence? Est-ce que c'est un ton badin? On sait pas. On va enfin les entendre. Donc la greffière met le CD dans l'ordinateur et elle ouvre un fichier et en fait les fichiers n'ont pas été nommés, donc on n'a pas la date, on n'a pas les minutes et en fait on se dit oulala, mais comment on va faire pour trouver la bonne écoute, quoi. La présidente dit oula, s'il y a un risque, on renonce tout de suite, c'est complexe, parce qu'évidemment elle ne veut pas que ne serait-ce qu'une seconde d'écoute qui n'aurait pas à être entendue soit diffusée. N'allons pas plus loin. Bon, évidemment, déception pour nous, les observateurs, parce qu'on voulait évidemment entendre ces conversations dont il a été question pendant tout le procès.
Le reste de l'après-midi est consacré à l'audition de Nicolas Sarkozy. Il clame son innocence.
Nicolas Sarkozy qui a rappelé que c'était un avocat avant même d'être un politique. Il a regardé droit dans les yeux à la présidente du tribunal en lui disant « Je veux être lavé de cette infamie, c'est mon honneur, ma famille qu'on a bafoué. »
En gros, il explique que ces conversations, c'était du bavardage. Qu'il était à 100 milliards de lieues de pensée, qu'il faisait quelque chose de mal en discutant de ce pourvoi avec Thierry Herzog, en parlant de Gilbert Azibert. Il dit « Non, mais là, vraiment, pas du tout. Je discute avec mon ami, ça vaut pas grand-chose. » Alors, bien sûr, oui, je me renseigne sur cette procédure de la Cour de cassation. Mais oui, c'est vrai, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'avoir le résultat. Moi, je suis comme ça. À l'époque, faut voir, j'ai eu l'affaire Bettencourt, il y a l'histoire de la Libye, c'est compliqué pour moi. Si enfin je peux avoir des bonnes nouvelles, tant mieux. Donc mon avocat, il me dit des choses, mais en fait il est là pour me rassurer. On n'a pas du tout voulu chercher à influencer quoi que ce soit. On n'a pas été destinataire d'informations privilégiées. Voilà, en gros, c'est vraiment le sens de sa défense.
Qu'est-ce qu'il dit de son séjour à Monaco? Est-ce qu'il reconnaît avoir demandé une faveur pour Gilbert Azibert?
Alors il dit qu'il ne l'a pas fait. Alors déjà, il explique que ce séjour à Monaco était prévu avant, que c'était un séjour privé, dans un hôtel monégasque où il est allé avec son épouse Carla Bruni et leur fille Julia, et que comme il était à Monaco, Thierry Herzog lui dit « Au fait, t'as pensé au truc pour Gilbert, là, le poste, et que c'est ça qui fait qu'ils en ont parlé, que s'il avait été en vacances à Marrakech ou à Evian, du coup, ça serait même pas venu la conversation. » Et en tout cas, il dit « Ma vie, c'est 40 ans de vie politique et 40 ans de coups de pouce, donc voilà. Il y a mon ami Thierry Herzog qui me demande un coup de main pour son ami Gilbert Azibert, oui, j'aurais pu le faire, voilà, mais je l'ai pas fait. »
Le mardi 8 décembre, on attend les réquisitions, mais il y a un nouvel invité surprise, le chef du parquet national financier. Il vient à la barre défendre son institution qui a été vivement critiquée par la défense des prévenus.
Oui, c'est une surprise. Jean-François Bonnert, qui est donc le chef du parquet national financier, qui n'était pas en poste au moment où l'enquête a été menée, il va défendre son institution et notamment répondre à toutes les conclusions qui avaient été déposées le premier jour par la défense. Et il va notamment défendre le bien fondé de l'enquête préliminaire qui a visé à identifier la taupe qui n'a jamais été identifiée et donc qui potentiellement n'existe pas. Et il défend la manière dont l'enquête a été menée.
Le mardi soir, Timothée Boutry, les deux représentants du parquet national financier, du PNF, prononce donc leur réquisitoire.
Ça va être un réquisitoire très sévère, très long aussi, puisqu'il va durer 5 heures en tout. Dans une première partie, Céline Guillet va s'efforcer de matérialiser les soupçons de trafic d'influence et de corruption. Et en fait, elle va reprendre les écoutes, les mettre bout à bout, projeter des schémas, même un nuage de mots sur le contenu des conversations. Voilà, elle va essayer de faire une construction pour dire que, bah oui, Gilbert Azibert, il était très intéressé par cette affaire, il a contacté son collègue, il a indiqué qu'il avait des documents. Oui, il y a bien eu un effort qui a été fait pour avoir des informations et influer sur le pourvoi, et qu'en échange, ah ben, Nicolas Sarkozy, il est allé à Monaco, il a passé des coups de fil, et donc il a vraiment scellé le pacte entre eux, quoi. Et en deuxième partie, en conclusion, son collègue Jean-Luc Blachon va dire en gros l'action ne se serait pas produite si l'ancien président avait gardé présent à l'esprit la grandeur, le sens et le devoir de la charge qui fut la sienne. Et ensuite, il y a cette formule assez marquante. La République n'oublie pas ses présidents, car ils font l'histoire, mais elle ne peut pas admettre qu'un ancien président oublie la République et ce qu'elle représente, l'état de droit. Donc il l'accuse d'avoir abîmé l'état de droit, d'avoir porté un coup à nos institutions. Et donc, voilà, ce sont des propos qui sont quand même très très fort.
Et les peines demandées sont fortes également.
Oui, les peines sont lourdes puisque à l'encontre des trois prévenus, ils réclament la même peine, 4 ans de prison dont 2 avec sursis, c'est-à-dire 2 ans de prison ferme. Et en plus, pour Thierry Herzog, le parquet demande l'interdiction d'exercice professionnel pendant 5 ans, ce qui est très lourd aussi puisque Thierry Herzog, il est avocat, il est pénaliste, un des plus grands avocats de Paris, et c'est évidemment une sanction très lourde aussi.
Que se passe-t-il dans les minutes qui suivent ?
Bah donc déjà, c'est la fin de l'audience. Les prévenus sont restés assez longtemps dans la salle, environ un quart d'heure. La défense a affiné sa stratégie et c'est là que notamment a été décidé que la défense de Nicolas Sarkozy plaiderait en premier, alors qu'on pensait qu'il plaiderait en dernier. On peut penser qu'ils étaient quand même un peu sous le choc, quoi, et que personne ne s'attendait à des réquisitions aussi sévères.
Le lendemain, le mercredi 9 décembre, pour la première fois, l'épouse de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, vient à l'audience.
Elle rentre dans la salle, ça, c'est une surprise, hein, on ne s'attendait pas à la voir, enfin, même si, ma foi, il n'y avait rien d'exceptionnel, c'est son épouse, son mari est jugé, c'est important. Oui, évidemment, bah, quand on la voit, on se dit, ah bah tiens, t'as vu, il y a Carla Bruni, aujourd'hui c'est elle qui est venue. Bon, voilà, évidemment, ça fait un peu causer. Et ce qui était assez amusant, c'est de voir que Nicolas Sarkozy était manifestement très fier de la présence de son épouse et qu'il la présentait à tout le monde, donc c'était assez drôle.
Et les plaidoiries de la défense commencent. L'avocate de Nicolas Sarkozy, Jacqueline Lafont, réaffirme que selon elle, le dossier est vide de preuves.
Oui, c'est vraiment le leitmotiv de la défense. Elle dit, c'est un désert de preuves. Vous n'avez rien. Vous n'avez que des écoutes. Vous avez essayé de matérialiser, mais vous n'avez rien eu. Et au final, vous vous retrouvez juste avec ces écoutes et vous avez essayé de les interpréter. Mais enfin, on ne bâtit pas une accusation sur des interprétations. Et surtout, elle va en fait reprendre le réquisitoire et elle va dire, j'ai jamais entendu autant le vocable du doute. Et elle égrène les formules. Nous croyons que, nous pensons que l'hypothèse est que nous assumons de pouvoir nous tromper. Et voilà, elle dit, mais voilà ce que vous dites, vous, accusation, vous demandez 4 ans de prison, dont 2 avec sursis contre Nicolas Sarkozy, alors que vous ne savez rien, vous n'avez pas de preuves.
Sa conclusion, sans surprise, c'est qu'il faut relaxer son client.
Elle dit au tribunal, vous relaxerez Nicolas Sarkozy, vous êtes un tribunal libre, indépendant, impartial, et le dossier, vous n'aurez pas d'autre choix que de le relaxer.
Je dirais que le parquet a déserté l'accusation, et qu'aujourd'hui il a parlé très fort, il a proposé des peines qui ne sont que des peines proposées, il l'a d'ailleurs rappelé lui-même, ce ne sont que des réquisitions, et encore une fois, je n'ai aucun doute, nous démontrons ces réquisitions, parce que, encore une fois, elles ont été démontées déjà au cours de l'audience et que ce sera très facile pour nous de le faire.
Le procès se termine le lendemain, le jeudi 10, avec les plaidoiries des avocats de Thierry Herzog et Gilbert Azibert.
Et oui, là, on va avoir deux styles très différents. D'abord, Dominique Allegrini, l'avocat de Gilbert Azibert, avocat marseillais, et qui va, en fait, multiplier les formules drôles, les punchlines. Et il dit, mais un doute, plus un doute, plus un doute, ça fait pas plusieurs doutes ni un gros doute pour le parquet. Non, non, ça fait un faisceau d'indices. Et là, il a cette formule, il dit, bah, entre ça et les bateaux mouches, je suis content d'être monté à Paris. Donc voilà, c'est assez drôle. Il parle de Frankenstein judiciaire pour pilonner l'accusation. Et ensuite, bah, ça va être l'avocat de Thierry Herzog qui va prendre la parole, Hervé Temim, qui est un des plus grands avocats parisiens, qui va surtout attaquer les écoutes téléphoniques en disant non, vous n'aviez pas à retransférer les écoutes entre un avocat et ses clients, c'est sacré, ça c'est revenu à chaque fois, mais là il l'a redéveloppé, et il va encore dire, c'est le vide sidéral des preuves, vous n'avez aucune preuve.
Timothée Boutry, les avocats des trois prévenus, vous les avez trouvés convaincants ?
En tout cas, ils ont mouillé la chemise. Après, c'est normal, c'est quand même un des procès les plus médiatiques de l'année, c'est l'ancien président de la République. Ah, c'est quand même logique qu'ils se défendent et qu'ils se défendent bien, ma foi. On a deux visions totalement opposées, hein, entre un parquet qui est très ferme, qui est moralisateur, qui considère qu'on a vraiment touché au pacte républicain et qui va donc demander des peines très fortes. Et de l'autre côté, on a une défense qui va dire que le parquet s'est fourvoyé, que le parquet n'a pas respecté les droits de la défense, a utilisé des méthodes hors normes, dérogatoires, tout ça pour un dossier qui est totalement vide. Donc on a un bloc contre un bloc.
Merci Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Nathan Châtelain, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire pour vos retours, codesource@leparisien.fr. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.